Et on va parler du futur sérieux de la recherche, puisqu'il est déjà 16h53. Et comme chaque mercredi, nous avons le plaisir de recevoir en fin d'émission précisément l'avenir de la recherche en la personne d'un ou d'une doctorante qui vient nous présenter ses travaux de recherche. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie Leclinch-Piel. Vous êtes en dernière année de thèse à l'EHESS. Bienvenue dans la recherche Montre en main, c'est à vous.
Merci. Alors dans ma thèse, je m'intéresse aux transplantations du visage en tant que technique émergente et objet de fortes controverses. Les controverses sont un point d'entrée privilégié en sociologie en raison de l'effort d'explicitation qui est fourni dans ces moments-là par les acteurs pour faire valoir leur rapport au monde et pour justifier de leurs actes. L'une des questions au cœur des controverses au début des années 2000 est de savoir si le visage peut faire l'objet d'un don anonyme. Est-ce que le visage peut être dépersonnalisé comme un cœur ou comme un foie ? Est-ce que les personnes défigurées ne risquent pas une confusion identitaire avec le donneur d'organes ? C'est une inquiétude dont témoigne par exemple le Comité consultatif national d'éthique, qui estime en 2004 que l'émergence d'une telle opération est illusoire au regard de la force symbolique du visage et de sa centralité dans la construction des individus. Pour le comité, ni les proches d'un défunt en état de mort encéphalique, ni les patients défigurés ne sauraient accepter une telle opération. Et pourtant, on l'a vu, quelques mois plus tard, la première transplantation a lieu. Comment alors ce que la bioéthique jugeait inacceptable en principe a-t-il été rendu acceptable en pratique ? Comment le visage est-il devenu un organe, objet de don anonyme ? Pour répondre à ces questions, je m'appuie dans ma thèse sur une enquête qui impliquait trois méthodes. D'abord, j'ai analysé les archives de la presse grand public et scientifique des années 90 à aujourd'hui. Ensuite, j'ai réalisé plus de 80 entretiens avec des chirurgiens du visage, des patients, des membres d'associations de personnes défigurées, des comités d'éthique ou encore des représentants de l'agence de la biomédecine. Enfin, j'ai investi les deux services hospitaliers où sont réalisées ces greffes pour saisir, par l'ethnographie, le quotidien dans lequel elles émergent. J'ai suivi les équipes et les patients, en chambre, en consultation, au bloc opératoire. À travers ces matériaux, j'observe que chirurgiens et éthiciens promeuvent deux définitions concurrentes du visage, de vision du corps humain et de la relation entre la chair et l'identité des personnes. Tous défendent l'importance du visage chez l'humain. Cependant, tandis que les chirurgiens s'appuient sur cette importance du visage pour défendre leur réparation par la greffe, le comité la mobilise pour s'opposer à son prélèvement chez les défunts. Face à cette impasse, les chirurgiens vont soutenir que la partie du corps amenée à être prélevée n'est en fait pas tout à fait un visage. On ne greffe pas un visage mais une face, est une formule que je retrouve de façon quasi invariable tout au long de mon enquête, chez les chirurgiens, les infirmiers au bloc opératoire ou les patients. Distinguer le visage propre au vivant de la face des morts consiste à affirmer que la force symbolique et la fonction de communication associée au visage s'effacent avec l'arrêt des fonctions cérébrales de la personne. La face se résumerait à un support de reconnaissance qui peut être remplacé par un masque mortuaire au trait du défunt. C'est la première étape à travers laquelle le visage devient un organe, mais la dépersonnalisation et l'anonymisation du visage se poursuit tout au long de la trajectoire de l'organe au bloc, ainsi qu'après la transplantation. Les personnes greffées vont en effet faire l'expérience de la réception de l'organe et développer différents types de relations à leur donneur anonyme qui laisse plus ou moins de place à sa personne. Je voudrais terminer en indiquant que le don d'organes n'a pas l'exclusivité de cette tension entre anonymat et personnalisation. Il suffit de regarder du côté des controverses actuelles concernant la procréation médicalement assistée avec tiers donneur pour s'en assurer. À nouveau se pose la question que j'ai soumise à analyse à partir du cas des greffes du visage. Jusqu'où associer ou dissocier les personnes de leur chair ? En d'autres termes, que charrie la chair ? Si cette relation entre les personnes et les corps se trouve officiellement encadrée par de fortes contraintes institutionnelles, telles que la politique du don anonyme, elle est surtout, en pratique, le résultat d'un bricolage quotidien, menée tant par les équipes médicales que par les patients.